Eh bien, il est 19h, Frédéric Martel,
bonsoir. Bonsoir Julie Gacron.
Au sommaire de Soft Power ce soir.
On parle d'influence et de diplomatie culturelle, et notamment des Allemands et des Anglais, voilà.
Eh bien, très bonne émission.
À dimanche prochain.
Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why
I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power en direct jusqu'à 20h30. Comme chaque dimanche, Soft Power, magazine de France Culture consacré à la politique culturelle, aux industries créatives, aux médias ainsi qu'au numérique et à l'innovation. L'Europe des instituts culturels. L'Europe des instituts culturels, tel est le sujet de cette émission. C'est encore un débat, c'est encore confidentiel et une information France Culture. Mais la France est en train de décider, d'envisager, d'imaginer, de lancer dans les mois à venir des instituts culturels franco-allemands. Deux pays européens s'associent donc pour diffuser ensemble leur culture et réunir leur savoir-faire, l'Allemagne et la France, à l'heure de la mondialisation du numérique et du Brexit. Pour parler de ce projet ambitieux et même révolutionnaire pour la diplomatie culturelle française habituée à être un peu seule aux manettes et centralisée, je reçois ce soir Andreas Korgen, le directeur général pour la culture et la communication au ministère allemand des Affaires étrangères, qui arrive d'ailleurs cet après-midi, aujourd'hui même, de Berlin. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Claudie.
À vos côtés, pour avoir un autre point de vue sur ces sujets de diplomatie culturelle européenne, je reçois Bob Lewis, le directeur du British Council à Paris. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Avec vous, on parlera bien sûr de la diplomatie culturelle britannique post-Brexit. Comment allez-vous réorganiser cette diplomatie et tenter de conserver votre soft power? Au sommaire de cette émission également, dans un instant, l'actualité du numérique, des médias et des industries créatives. Nous parlons de Paye ton auteur, un hashtag, un mot-clé qui a fait plier le salon du livre de Paris, Livre Paris, cette semaine, sur la rémunération des auteurs. TF1, qui a disparu puis réapparu timidement cette semaine de certains écrans, décryptage de cette bataille entre TF1 d'un côté et Free, Orange et Canal+, de l'autre. Enfin, le lancement de la fondation artistique Lafayette Anticipation. En seconde partie d'émission, l'invité Innovation ce soir avec vous, Zoé Sfez.
C'est Jacques Priol, l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le Big Data des territoires » et qui s'interroge, en tout cas qui encourage, qui donne des conseils aux élus locaux, aux collectivités territoriales sur la manière dont il faut, dont on doit intégrer la donnée comme une donnée aujourd'hui indispensable et qui peut aider à mieux gérer un territoire. On en parlera avec lui. C'est un livre qui est paru il y a quelques semaines.
20h10, le numérique politique. Le débat de ce soir sera consacré au projet de loi contre les fake news, dont les grands axes ont fuité dans la presse cette semaine. Son contenu, ce projet de loi, ses objectifs, ses limites. Et nous en débattrons ce soir avec Gaël Duval, fondateur de jechange.fr, et Elliot Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG Le Mouvement. ONG. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power. Ce soir, cette émission est réalisée par Sonia Leglen avec en régie Jean-Frédéric. Elle a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Pierre Le Damani. Car vous pouvez, il y a beaucoup des le, des la et
il y a
des
beaucoup, c'est très perturbant.
Voilà, Pierre Le Damani. Car vous pouvez aussi suivre cette émission sur les réseaux sociaux, Twitter en mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify ainsi que sur Instagram, Medium, LinkedIn, Facebook, en podcast et sur France Culture en direct jusqu'à 20h30. L'actualité, comme chaque semaine, au début de cette émission, avec nos chroniqueurs et nos invités. Paye ton auteur, c'est par ce mot-clé, ce hashtag, que toute la semaine, des auteurs se sont mobilisés activement sur les réseaux sociaux contre le Salon du Livre de Paris, Livre Paris, Salon du Livre qui commencera ce vendredi, pour demander une juste rémunération des auteurs. Au Salon du Livre de Paris, dont l'entrée est payante, il y a un budget pour la sécurité, pour les techniciens, pour les éclairagistes, pour les hôtesses d'accueil, pour les guichetiers, pour les monteurs de stands, pour la communication et même une ligne budgétaire pour les fleurs, oui. Mais il n'y avait pas de budget pour payer les auteurs qui font des conférences et des lectures. Alors les caricaturistes, je pense notamment à un certain Philippe, par exemple, dont je reprenais un instant les thèmes de son dessin, s'en sont donnés à cœur joie, et le Salon du Livre, Zoé Sfez, ainsi que le Syndicat National de l'Édition, ont fini par céder. Ce mercredi.
Effectivement, alors le Salon du Livre, c'est-à-dire la personne qui organise l'organisation du Salon du Livre, c'est Reed, qui organise aussi souvent la FIAC.
Reed Media,
le Syndicat National de l'Édition. Alors visiblement, c'est une intervention directe auprès du directeur du SNE qu'il a fallu pour résoudre cette crise, qui clairement, on peut le dire, j'ai l'impression, jusqu'au dernier moment, a été assez sous-estimée par les organisateurs. Il y avait des menaces de boycott des auteurs qui étaient clairement de plus en plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris qu'ils ne seraient pas payés pour ce salon, pour leurs différentes prestations. On ne parle même pas des dédicaces, juste de la manière dont on anime en fait les tables rondes, les rencontres avec les auteurs. Donc les dédicaces, c'est encore un sujet à part. Et ceci alors que, on en a souvent parlé ici dans Soft Power et précédemment sur France Culture, notamment dans le Journal de la Culture, le Centre National du Livre a décidé l'année dernière d'aider les manifestations littéraires, hein, elle le fait, hein, c'est son but, le Centre National du Livre, uniquement si toutes ces manifestations littéraires respectaient une charte qui recommande de rémunérer les auteurs. On part du principe que c'est une partie de leur activité, le montant pour la journée c'est 150 euros, il y a évidemment cette idée de 50 euros, quasiment toutes les manifestations littéraires depuis s'y conforment, en tout cas les plus importantes, et Livre Paris allait devenir peut-être l'une des premières, alors que c'est clairement la plus importante à ne pas s'y conformer, donc on a cet hashtag paye ton auteur qui a été créé sur Twitter, qui va survivre très clairement à cette crise, hein, puisque c'est devenu vraiment un lieu un petit peu comme le MeToo, où tous les auteurs font part de leurs revendications, notamment sur la question des dédicaces, notamment évidemment les auteurs de BD, qui s'étaient déjà fait entendre largement.
Qui au aussi ont une charte des auteurs, exactement. Avec des tarifs d'ailleurs plus élevés, puisque c'est 226 euros net par demi-journée, 375 euros pour une journée entière, ce sont des minimums. Et même pour les signatures, les auteurs de bande dessinée sont à 50% de ces sommes.
Exactement, parce que souvent ce sont des auteurs que les lecteurs aiment beaucoup rencontrer et que par ailleurs ce sont aussi des auteurs qui sont beaucoup plus mal payés que les auteurs de littérature générale. On en a souvent aussi parlé.
Une récente étude du ministère de la Culture montre en effet que 41% des auteurs en général gagneraient moins que le SMIC.
Que le SMIC et que sur les auteurs de BD, on est dans des auteurs qui atteignent le seuil de pauvreté dans des proportions assez importantes. Je rappelle que c'est très difficile quand on est un auteur de BD, un dessinateur en tout cas, d'avoir une activité annexe comme être professeur ou donner des cours à côté. Alors il y a eu une intervention quand même de la ministre de la Culture sur France Inter. Quand on leur demande de faire des prestations, il me paraît légitime que les auteurs soient rémunérés. Voilà, en tout cas, paye ton auteur, on l'a dit, a une belle durée de vie devant lui. Et effectivement, on attend avec impatience de voir quelle sera l'ambiance au Salon du Livre cette année.
Au-delà du Salon du Livre, c'est d'ailleurs aussi un tournant, on peut dire, pour l'ensemble des festivals. On se souvient que des festivals comme Étonnant Voyageurs, par exemple, ont un rechigné à payer les auteurs alors qu'ils reçoivent des subventions, d'ailleurs généreuses. Il y a le débat avec les libraires, qui certes sont des petites sociétés et n'ont pas forcément les moyens de rémunérer les auteurs, mais en même temps, les petits cafés-théâtres, les petits cafés de salles de concert, les restaurants où des musiciens se produisent les payent, donc le débat va se poursuivre. Une auteure comme Virginie Despentes avait demandé, il y a quelques semaines, dans une interview, avait dit que désormais, les signatures, les conférences, tout ça devait être au moins prévu dans le contrat et donc rémunéré à minima par l'éditeur. Donc on voit bien que de tous côtés, ces débats ont lieu. C'est peut-être un tournant, ce paye ton auteur, puisque ça va changer sans doute la donne, au niveau en tout cas des écrivains, vis-à-vis de leurs prestations, lorsqu'il s'agit de conférences, lorsqu'il s'agit de participation à des colloques, des festivals. Reste la question des signatures qui est un peu plus complexe, surtout dans les premières semaines de la sortie d'un livre, où là on est dans ce qu'on appelle un peu la promotion. C'est un peu ce qu'on pouvait dire de ce débat ce soir.
En gros, ce qui se passe, et on l'a vu avec le Festival Angoulême encore l'année dernière, c'est que de toute manière, on est en train d'essayer de repenser globalement qu'est-ce que c'est qu'être un auteur. Qu'est-ce qui, dans l'activité d'un auteur, dans la temporalité de sa vie, de sa création, qu'est-ce qui peut faire l'objet de rémunération ? Est-ce que c'est juste le moment où il écrit ? Est-ce que c'est le moment où il publie ? Et c'est des réflexions qui, dans un contexte où le livre se vend moins, mais reste quand même très important, c'est des questions qu'il faut penser et qui sont en train justement de se poser.
C'est aussi la question des nouveaux modèles économiques de la culture et on voit bien que d'une certaine manière, la musique a changé radicalement de son modèle qui était avant la vente des CD. Auparavant des disques. Désormais, un artiste musical se fait rémunérer très largement à travers le live, c'est-à-dire avec ses concerts, ses prestations, parfois des conférences d'ailleurs aussi. D'une certaine manière, le live des écrivains, ce sont des conférences. Et donc, on voit bien pourquoi il va falloir sans doute évoluer sur
cette question. La valeur
bouge,
en fait. Là où la valeur se crée, et là où la valeur revient à l'auteur, c'est un endroit qui est de plus en plus mouvant.
Nous y reviendrons sans doute à l'avenir dans cette émission. Débat en cours, en tout cas solutionné en ce qui concerne le Salon du Livre, Salon Livre Paris, cette semaine. Autre actualité de la semaine, le bras de fer engagé par TF1 contre les fournisseurs d'accès à Internet et contre Canal+, pour faire payer une sorte de droit de diffusion de leur chaîne, droit qui n'existait pas, et ce d'autant plus que TF1 est diffusé gratuitement sur la TNT. TF1 cherche en effet à faire payer à Bouygues, Free, Orange, SFR et Canal+, une somme, non d'ailleurs vraiment divulguée, mais potentiellement de plusieurs dizaines de millions d'euros, en tout cas plusieurs centaines de millions plusieurs centaines de milliers d'euros, pardon, pour la diffusion de TF1 et des chaînes gratuites du groupe comme TMC, TFX, LCI ou encore TF1 Films et Séries. Bouygues a été le premier opérateur à céder, ce qui n'est pas très surprenant compte tenu de ses liens avec TF1, suivi en fin de semaine par l'opérateur Orange. Canal+ a enterré quant à elle la hache de guerre ce week-end jusqu'à nouvel ordre, et Free continue sa négociation secrète. Alors l'enjeu est de taille pour TF1. Il s'agit de diversifier ses revenus et de dépendre moins de la publicité en faisant donc payer les fournisseurs d'accès à Internet. TF1 espère ainsi mieux monnayer ses contenus. Pour les fournisseurs d'accès à Internet, mais aussi pour Canal+, via ses décodeurs, il s'agit de ne pas entrer dans un engrenage, une spirale économique, disons, infernale, car accepter de payer aujourd'hui, même une somme dite raisonnable, c'est ouvrir la boîte de Pandore et devoir payer de plus en plus à l'avenir pour TF1, mais aussi, pourquoi pas, pour France Télévisions, et non seulement pour l'Internet à domicile, mais aussi pour l'Internet mobile. Enfin, pour le régulateur et pour les tutelles, c'est évidemment un casse-tête, car on ne sait pas trop qui peut vraiment réguler, le CSA, qui s'occupe plutôt des contenus, l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms, qui s'occupe plutôt des tuyaux, ou bien le ministère de la Culture et de la Communication, dont la ministre continue à être très décriée, notamment après son passage un peu raté cette semaine chez nos confrères de France Inter, que vous évoquiez tout à l'heure. Zoé Sfez, la ministre, semble ne pas toujours connaître ses dossiers, n'avoir en tout cas aucune marge de manœuvre. Elle fut totalement impuissante dans cette bataille entre TF1 et les opérateurs de télécoms. Une bataille pourtant, Zoé Sfez, essentiel.
Mais oui, effectivement, essentiel. Alors, il faut quand même rappeler le ton qui est quand même très très dur entre tous ces acteurs. La plupart, donc on en a parlé, hein, Free, Orange, SFR, Canal+, ont trouvé très arrogant la manière de faire de TF1. Et donc d'ailleurs, Canal+, a quand même fait monter la pression en coupant tous les contenus de TF1. Le but, c'était de se dire, bon, ils vont arrêter de nous embêter, et ils vont se rendre
d'ailleurs,
compte que
d'ailleurs, les audiences
sans nous,
de TF1 ont chuté.
Voilà, elles ont chuté. Sans nous, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour eux. Et finalement, il y a eu un retour partiel. Et samedi, donc hier, Canal+, a annoncé qu'il allait rétablir totalement l'accès à TF1 à l'ensemble de ses abonnés sur une base raisonnable. Alors évidemment, on n'a pas les chiffres, tout ça, ça se fait en sous-main. Les derniers jours ont confirmé, nous dit Canal dans un communiqué, que la diffusion des chaînes gratuites va rester gratuite et que seuls les services complémentaires, c'est-à-dire le replay
hein,
qui est extrêmement consommé, il faut le rappeler aujourd'hui, et notamment par les jeunes, c'est un peu vers ça que va la télé en général, pouvaient être payants. Et le groupe de Vincent Bolloré qui se dit disposé à négocier avec le groupe TF1 la rémunération, les services et fonctionnalités qui sont associés à ces chaînes sur une base raisonnable et non discriminatoire par rapport aux accords signés avec les autres distributeurs. Alors par exemple, le communiqué ne dit pas si les coûts supplémentaires pour cette espèce de package qu'ils sont en train de créer va peser sur ses abonnés, parce que c'est un petit peu ça l'enjeu. Est-ce que Canal+ va aussi, si tout le monde se met à faire ça, est-ce qu'on va répercuter les coûts que ça représentera pour un groupe comme Canal+, de devoir payer TF1 sur ses abonnés? Le replay, par exemple, en général, il est toujours offert, en l'occurrence pour les gens qui sont abonnés à Canal+. Alors il faut noter quand même que, vous l'avez dit, les enjeux sont importants, mais qu'en sous-main, cette bataille-là, elle dure depuis quasiment un an. On a le groupe M6 qui s'est inspiré de TF1, mais qui lui a agi de manière beaucoup plus discrète, de manière
subtile,
probablement beaucoup plus subtile et beaucoup moins violente, et qui est parvenu à signer des accords avec tous les télécoms, à l'exception notable, là encore, de Free, qui clairement fait la résistance. Et on avait un cadre qui expliquait au journal Les Échos, c'est un peu la fable du lièvre et de la tortue. Le leader est parti tête baissée, et au final, c'est le challenger qui a pris l'avantage. Donc évidemment, c'est des questions qu'il faudra suivre de manière très nette, parce que c'est clairement là que se joue l'évolution de la télévision. Et évidemment, à la base de la base, on sait que TF1 investit énormément dans la création de contenu, et c'est quand même un petit peu ça la question, c'est comment on fait pour continuer à investir, avoir de l'argent à investir dans le contenu quand on a face à nous des géants comme Netflix, avec des budgets alloués à la création pour l'année prochaine dont on sait qu'ils sont faramineux.
En deuxième partie d'émission, nous aurons Andreas Görgen, le directeur général pour la culture et la communication du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne, ainsi que Bob Lewis, le directeur du British Council à Paris. Et j'en profite parce que Bob Lewis, vous aviez une autre casquette avant de devenir, on en parlera tout à l'heure, le directeur du British Council à Paris depuis quelques mois. Vous étiez le vice-président de British Telecom en Europe. Qu'est-ce que vous pensez, puisque vous connaissez bien le secteur des télécoms, du point de vue des opérateurs, de ce type de débat financier?
Finalement, ça c'est une évolution qui arrive tout le temps et nous sommes dans une position qui a commencé quelques années avec l'entrée de télécom dans le broadcast. Et franchement, quand on regarde chez British Telecom à Londres, ils ont acheté le droit de diffuser le sport. Et ça, c'est un grand bataille.
Mais ils diffusent, ils doivent pas payer les diffusions de la BBC quand même.
non, la BBC, c'est
toujours ouvert. Parce que c'est ça, en fait. Mais c'est la BBC ou Sky, par exemple, c'est ce débat-là. Sur le sport, évidemment, c'est autre chose.
Mais... Oui, mais regarde Sky, par exemple, il a une obligation par le régulateur de continuer de diffuser toutes les chaînes gratuites, terrestres, partout. Et ça, c'est un exemple de choses qui va changer. Je crois que le replay, c'est toujours quelque chose de différent que le gratuit. Et on regarde ici en France le début d'une bataille qui va améliorer, mais changer la bataille.
Soft Power, reportage. Zoé Svez.
Et pour terminer cette actualité, vous êtes allé vous intéresser à une fondation qui vient d'ouvrir cette semaine.
Oui, parce que c'était l'autre actualité importante cette semaine en France, à Paris. C'était l'ouverture en plein cœur du Marais, ça a été donc inauguré hier, d'une nouvelle fondation privée dédiée à l'art contemporain, après la fondation Louis Vuitton de Franck Guéry, avant l'ouverture de celle de François Pinault, qui sera à la Bourse du Commerce. C'est Lafayette Anticipation, discrète fondation dessinée par le star architecte Rem Koolhaas, qui ouvre ses portes dans le Marais, rue du Plâtre. Tour de force architecturale, c'est très discret de l'extérieur, mais ça occupe l'espace d'un ancien entrepôt du BHV qui appartient au Galeries Lafayette. Et c'est une immense tour de verre avec des planchers et des salles d'exposition mobiles. Cette fondation a été voulue par Guillaume Mouzet, l'arrière-petit-fils du fondateur des Galeries Lafayette, qui est aujourd'hui le directeur de l'image et de la communication du groupe. Il veut que cette fondation soit un lieu de travail pour les artistes, un lieu très bien mis en valeur par l'exposition, disons, très légère de l'artiste américaine Lutz Bacher, The Silent of the Sea. On entend ici les bruits, c'est essentiellement du bruit de vent dans les micros, financé en grande partie par la loi Ayagon. Quel peut être le rôle de cette fondation? J'ai posé la question à Guillaume Mouzet.
L'art a toujours fait partie du projet entrepreneurial des Guéry depuis maintenant près de 120 ans. Autant l'entreprise que la famille actionnaire est largement investie depuis très longtemps pour défendre la question de la création. L'histoire même des grands magasins est intimement liée à l'histoire de la modernité, aussi finalement à ce lien très étroit avec toutes les différentes disciplines que constitue la création. Art plastique bien sûr, mais la mode. Bon, nous ce qu'on souhaite à travers ce projet, c'est pas simplement effectivement imaginer un projet supplémentaire, une énième fondation qui aurait vocation à montrer de l'art. Ce qu'on veut, c'est se rendre avant tout utile pour les artistes. Et donc, il nous a semblé intéressant d'imaginer un projet différent, que ce ne soit pas une énième boîte à bijoux pour montrer une énième collection, qui n'aurait en plus rien à envier à notre voisin du Centre Pompidou. Et d'ailleurs, on n'a absolument pas ni la même ambition, ni les mêmes moyens pour avoir la Fondation Vuitton. Ce qu'on souhaitait, en revanche, c'était pouvoir imaginer quelque chose à côté, un peu hors cadre d'une certaine façon, mais qui puisse apporter des réponses concrètes, des solutions aux artistes pour produire. Alors, savoir si ça peut servir ou non l'image des Guéry Lafayette, le temps le dira, certainement. En revanche, je tiens à préciser qu'il y a une très forte étanchéité entre le projet commercial des Guéry Lafayette d'une part et la fondation d'entreprise Guéry Lafayette d'autre part, qui est une fondation d'intérêt général.
Qu'est-ce que vous répondriez aux détracteurs de cette loi Ayagon, ou en tout cas aux détracteurs du fait que cette loi, évidemment, même si elle permet aux entreprises privées d'investir et de mieux soutenir la création, évidemment défiscalise?
Ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, le mécénat culturel, il souffre globalement en France énormément. Et la création contemporaine en particulier. Donc moi, ce que je peux simplement répondre, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est absolument vital de pouvoir permettre au privé, effectivement, de se rapprocher du monde par ailleurs institutionnel. Et je pense que c'est une grande forme de modernité que d'arriver à rapprocher le public et le privé.
Comment est-ce que ce bâtiment, justement, vous l'avez pensé, parce que c'est un bâtiment qui est vraiment au cœur de la ville, qui est assez discret de l'extérieur, mais très impressionnant quand on est à l'intérieur, et notamment aussi dans la manière dont le public va ou pas arriver. Comment est-ce que vous avez pensé la question des tarifs au regard justement du fait que vous êtes dans une fondation qui met au cœur de son dispositif la production?
Tout le projet, c'est concentrer effectivement non pas sur l'extérieur, comme c'est souvent le cas, mais sur l'intérieur. Bon, on est en plein cœur du Marais, un des quartiers les plus protégés, les plus anciens de la ville de Paris. On était soumis à un plan de sauvegarde du Marais extrêmement réglementé. Et donc l'architecture, d'une certaine façon, s'est concentrée sur son centre et s'est d'une certaine façon radicalisée. Et aujourd'hui, le jeu de plancher mobile que Rem Koolhaas a imaginé permet au fond de démultiplier à la fois tous les usages de l'espace et tout son potentiel. Et effectivement, c'est une forme de prouesse que d'avoir réussi à construire cette tour de verre de près de 20 mètres de haut en plein cœur de ce quartier extrêmement réglementé. C'est un bâtiment qui est traversant. Et effectivement, le rez-de-chaussée se veut comme une continuité de l'espace public. C'est un espace qui sera totalement accessible, gratuit du public, et où effectivement le public pourra venir à la fois prendre un café ou bien se confronter à des talks, des discussions, des concerts, des performances dans cet espace central. Pour ce qui est effectivement de la tarification, les espaces d'exposition seront en revanche payants, 8 euros. On travaille beaucoup sur les principes de gratuité aussi. Donc on veut effectivement faire de la fête anti-passion, bien sûr une maison pour les artistes, un lieu de travail. C'est un lieu de travail, de concentration. En même temps, ce que je souhaite, c'est que cet espace du Neuf Rue du Plâtre devienne avant tout un lieu de vie, d'échange, de partage, dans lequel j'espère les gens aimeront revenir.
Voilà, donc une fondation, la Fayette Anticipation, où en sous-sol, il y a des ateliers extrêmement impressionnants, des directeurs de production, des machines assez lourdes pour donc faire travailler les artistes. 8 euros, on l'a entendu, c'est beaucoup, beaucoup moins cher hein, globalement que la fondation Louis Vuitton.
Dans un instant, je reçois le directeur du British Council à Paris ainsi que le grand patron de la culture et du soft power allemand. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur l'exposition David Bowie Is qui vient d'ouvrir au Brooklyn Museum de New York. Cette expo a déjà fait le tour du monde, elle a débuté à Londres et elle s'achève dans la ville même où vivait David Bowie. Occasion de se replonger dans l'univers créatif de Ziggy Stardust et dans la quête artistique illimitée de David Bowie. Ses influences, de Little Richard à George Orwell, son mode de travail à l'aide de petits carnets remplis d'idées ou d'études très sophistiquées sur le kabuki japonais, ses œuvres pour le cinéma et pour Broadway, on pense à Elephant Man, et ses amitiés artistiques avec Lou Reed, Laurie Anderson et tant d'autres. Toujours dans l'expérimentation et le cool avant la mode, Bowie est un artiste complet, intégral, à la fois dans l'art visuel, la musique, la vidéo et les films, mais artiste aussi par le mime, le maquillage ou les costumes longtemps signés par Freddie Buretti. Qui se souvient par exemple de David Bowie qui avait lancé à 17 ans sur la BBC un appel pour lutter contre la cruauté de la société, contre les hommes aux cheveux longs. Plus qu'une star du rock, David Bowie était un artiste dans toutes les acceptions du mot, et cette exposition, David Bowie Is, à voir au Brooklyn Museum jusqu'au 15 juillet, raconte finalement un monde, une période où le rock était aussi un art. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Boy. Time, he flexes like a whore. Falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time in quaaludes and red wine, demanding Billy Dawes and other friends of mine. Take your time. The sniper in the brain regurgitating drain, incestuous and vain. This night's will it buy? Rock'n'Roll Suicide suivi par Time, album Ziggy Stardust et puis Aladdin Sane, David Bowie sur France Culture, il est exactement 19h25.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Je reçois ce soir Andreas Görgen, directeur général pour la culture et la communication, ministère allemand des Affaires étrangères, ainsi que Bob Lewis, directeur du British Council à Paris. Rebonsoir tous les deux.
Oui, bonsoir.
Je commence avec vous, Andreas Görgen, et puis peut-être une question d'actualité malgré tout. En fin de semaine, cette semaine, on a commencé à comprendre ce que serait cette grande coalition allemande CDU, CSU, SPD, avec également la nomination de plusieurs ministres, notamment votre ministre des Affaires étrangères qui a été annoncé. La chancelière sera officiellement, comment pourrait-on dire, intronisée, c'est ça, cette semaine.
Ça s'appelle élue.
Élu par
l'Assemblée.
Oui. D'une certaine manière, elle avait été élue aussi par les électeurs, mais on peut dire que l'acte officiel aura lieu cette semaine, suivi par l'entrée en fonction des ministres. Comment est-ce que vous avez, comment on peut résumer ces nominations avec, en l'occurrence, 4-5 ministres importants pour le SPD, Affaires étrangères, Finances, Justice, Travail, Famille et Environnement?
Ben on le résume par le contrat de coalition qui a été conclu entre les deux grands partis et qui reflète les sujets d'actualité de la société et qui donne une ligne directrice pour les années à venir. Et pour ce qui concerne mon domaine, il y a quand même trois points très importants qui sont très nouveaux dans l'univers culturel en Allemagne. Pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne, on aura une ministre déléguée à la politique culturelle internationale.
Donc une sorte de secrétaire d'État à la culture, comme on disait en France, ou ministre déléguée.
Oui, faut regarder un peu l'Allemagne à certains égards, elle est dans la situation de la France dans les années 50. C'est-à-dire dans les années 50, la France aussi, elle n'avait pas de ministère de la culture, mais un secrétaire d'État dédié à la culture. En Allemagne, c'est pareil. Depuis 1998, il y a un secrétaire d'État dédié à la culture. Et maintenant, 20 ans après, on considère que le sujet de la coopération internationale dans la culture a pris une telle importance qu'il fallait nommer une ministre déléguée dédiée à la coopération culturelle internationale.
Alors même qu'il n'y en a plus en France. Mais...
Ça, c'est pas à moi de m'exprimer. Ça, c'est pas à moi d'exprimer là-dessus. Mais juste un mot sur la
question. Qui sera le ministre des Affaires étrangères qui a été désigné, donc, même s'il n'entre en fonction que cette semaine, Heiko Maas, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
SPD, ancien ministre de la Justice, je crois.
C'est ça. Qui vient de la SAR. Pour la France, c'est peut-être pas.
Il y avait deux autres points que vous vouliez dire qui étaient les points importants.
Les deux autres points sur lesquels je voulais revenir, c'était sur le contenu de la politique culturelle internationale. Il y a quand même une avancée significative dans le contrat de coalition qui dit que la politique culturelle, elle participe au même titre que l'aide humanitaire aux dépenses de l'Allemagne par ce qu'on appelle les dépenses ODA. C'est-à-dire les dépenses dans des pays, anciennement dans des pays en voie de développement. Et ça reflète très très bien qu'à part l'aide humanitaire, il y a aussi une aide à l'humanité. Donc l'accès à la culture et l'éducation qui devient de plus en plus important. Et le troisième point que je souhaiterais aborder, c'est également, ça se reflète, et également reflété dans le contrat de coalition, c'est que sur les sujets culturels, que ce soit des sujets du marché, donc le market shaping, comme vous venez de l'évoquer au début de l'émission, que ce soit les crises actuelles, où on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de crises qui ont été surformées par une idéologie teintée religieuse, que c'est aussi une question de la culture et que la culture doit trouver ses propres moyens de réponse à cela. Et je pense que c'est également un sujet, pas seulement d'actualité, mais un sujet qui devient de plus en plus important dans des sociétés qui sont de fait des sociétés d'immigration. Donc, où l'intérieur, la définition de l'intérieur et de l'extérieur n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans.
On va revenir sur ce sujet. Andreas Görgen, vous dirigez la culture et la communication au ministère des Affaires étrangères allemand. Parmi les projets, et c'est une des raisons pour lesquelles on souhaitait vous inviter, projet sur lequel vous travaillez avec les Français depuis plusieurs mois, il y a l'idée d'ouvrir des instituts franco-allemands, donc mixtes, qui ne seront plus ni des instituts français ni des Goethe-instituts, et qui pourraient ouvrir dans, bien sûr, d'abord des pays pilotes, et puis on verra ensuite comment tout ça pourra évoluer. Quelle est la logique pour, du point de vue allemand, de créer ces instituts et quels sont les premiers pays sur lesquels vous envisagez d'avoir cette marque commune, si on peut dire.
L'idée derrière, c'est de dire, on va faire très simple. La France et l'Allemagne, en tant qu'État-nation, représentent, au niveau de leurs habitants, à peu près la taille d'une province chinoise. Or, on se rend compte qu'aussi, au niveau international, il y a une compétition. Une compétition sur la narration, sur l'image d'une société. Et nos sociétés, que ce soit la société française ou la société allemande, ont toujours fonctionné par le mode de contradiction. La démocratie, elle repose sur le fait de contradiction. Or, actuellement, il y a d'autres sociétés qui proposent un autre système qui est non contradictoire.
Les instituts Confucius, pour parler des Chinois sans vouloir
oui,
les,
oui,
les cibler.
Non, parlons-en ouvertement, parce qu'on est en compétition. Quand vous regardez la situation en 2010, prenons 10 ans avant, 2008, il n'y avait aucun institut culturel russe, il y avait à peu près 250 instituts Confucius, il y avait 220 British Council, et autour de 140 instituts Goethe. C'était il y a 10 ans.
Aujourd'hui
Aujourd'hui, il y a 500 instituts Confucius, il y a une centaine d'instituts MIR, donc d'instituts russes, et il y a toujours le même nombre d'instituts français, de British
Council. Donc il faut unir nos forces.
Et on est trop petit, avec notre taille d'une province chinoise, on est trop petit pour répondre aux défis de la compétition internationale.
Alors donc du coup, on ne va pas ouvrir des instituts communs franco-allemands en Suisse ou en Belgique ou au Canada, parce qu'il y a évidemment des enjeux compliqués pour les Français ou les Allemands. Quels sont les pays qu'on peut choisir qui peuvent être une sorte de gagnant-gagnant pour les deux pays?
Je vous donne un exemple qui marche déjà très très bien, c'est en Turquie. En Turquie, l'année dernière, on avait décidé d'ouvrir des lieux culturels européens. On a fait cela, on a mis 1 million d'euros du budget allemand, plus autour de 200 000 euros du budget français, 200 000 euros du budget néerlandais et suédois, avec une fondation turque. Et on va ouvrir 3 lieux culturels à Diyarbakir, donc dans la région kurde, à Gaziantep, donc dans la région affectée par la crise des réfugiés, et à Izmir, qui est quand même la ville la plus ouverte peut-être actuellement en Turquie. Et ces lieux-là ne vont plus s'appeler Institut Goethe ou Institut français, mais vont s'appeler Institut en espace culturel. Et ce qui montre très très bien que l'avenir de la coopération culturelle, il est, un, dans la coopération avec la société civile, avec les institutions sur place, et deux, dans une coopération européenne où ce n'est pas la question de représenter un État, mais d'ouvrir un espace de liberté.
Mais représenter donc l'idée européenne. Il faut le faire dans des pays où on n'est pas présent, ni l'un ni l'autre, ou est-ce qu'il faut le faire dans des pays où on est déjà tous les deux présents, mais ou alors si un est plus grand et plus petit.
On va faire tout simple. Comme schéma de lecture, ça fait tout à fait du sens d'aller là où il n'y a personne,
bien
et
sûr,
de le faire conjointement.
C'est-à-dire où? Parce qu'on sait qu'il y a une carte qui est très mouvante, et que chacun des pays, alors notamment la France et l'Angleterre, en tout cas le Royaume-Uni, ont des instituts, sont très présents dans des pays où il y avait le Commonwealth, et où des pays où on parle beaucoup la langue. Vous, quel est le cas? Et est-ce qu'il faut aller en Chine, par exemple, en étant européen, ensemble?
Mais on est déjà tous les deux,
on est
déjà en Chine.
Mais pas dans toute l'Europe.
Peut-être la Chine rentrerait dans la deuxième catégorie, ou dans une troisième catégorie, des lieux avec une haute signification politique où la France et l'Allemagne et d'autres Européens qui souhaitent se joindre à nous ouvrent un lieu qui ne soit plus un lieu allemand, français ou anglais, mais un lieu européen.
Le calendrier de ce type de projet pilote, on a une idée?
Le projet pilote en Turquie, il va commencer à fonctionner dans les prochaines deux mois. On y travaille depuis un an. On a fait des belles avancées, la structure de gouvernance elle existe, les lieux existent, donc on est très optimiste que d'ici deux mois...
Pour les autres?
Pour les autres, donc le cap a été fixé par le Conseil des ministres franco-allemands au mois de juillet dernier. Là aujourd'hui j'ai fait des réunions avec le cabinet du ministre des Affaires étrangères français. On a une idée d'un agenda qui va de maintenant jusqu'à la rentrée prochaine. Après, on va retravailler cela et faire une proposition au nouveau ministre allemand. Donc moi, je suis très optimiste qu'on va avancer d'ici 6 mois.
Vous avez cité le mot peut-être clé, gouvernance. Quelle gouvernance y aura, sachant que les Goethe Instituts sont très indépendants, alors même que les instituts français sont dépendants directement des ambassadeurs?
C'est vrai qu'il y a toujours, notamment en France, on discute toujours de cette grande différence, alors qu'elle n'est peut-être pas aussi grande que cela. C'est vrai que formellement, l'ambassadeur de France, il préside aussi l'Institut français, et l'Institut Goethe, il est indépendant de l'ambassadeur d'Allemagne. Par contre, les Instituts Goethe, par un contrat cadre, qui a été conclu il y a 40 ans quand même, par un contrat cadre, ont un mode de fonctionnement en cohérence avec la politique étrangère de l'Allemagne. Deux exemples, c'est le ministère des Affaires étrangères qui définit les lieux où il y aura des Instituts Goethe. Donc ça, il décide pas tout seul. On le fait de façon très coopérative, mais finalement, c'est une question qui relève de la politique étrangère. Après, sur place, mais chaque Institut Goethe, il a un trait aussi à se coordonner avec l'ambassade d'Allemagne et avec tous les autres acteurs allemands qui sont sur place. Donc en réalité, la différence, elle n'est pas aussi grande. Par contre, dans notre idée de la culture, elle est premièrement un espace de liberté. Un espace de liberté qu'il faut aussi gérer selon une tradition, selon des règles dédiées à cet espace de liberté.
Question, double question, parce que on le sait, c'est le cas pour le British Council, c'est le cas pour l'Institut Goethe, et c'est le cas, même si c'est complexe, parce qu'on a un système à deux têtes en France, avec l'Institut français et les Alliances françaises, mais au cœur aussi de ces projets-là, tels qu'ils existent aujourd'hui, il y a toujours la question de l'enseignement de la langue, qui, je crois d'ailleurs, est un des leviers principaux, c'est 65%, je crois, du financement des British Council. C'est moins fort pour l'Institut français, c'est tout à fait ça pour l'Alliance française, et l'Institut Goethe aussi, il se finance par les cours de langue. En l'occurrence, dans ce nouveau modèle, Quelle serait l'idée ? Est-ce que c'est vraiment des lieux qui seraient sur les budgets de la diplomatie, purement et uniquement ?
D'accord. L'enseignement de langue, ça c'est une... Enfin, Bob va peut-être contredire, c'est une affaire de business. Donc ça c'est pour faire rentrer de l'argent. Et la plupart, la masse d'argent, elle rentre en Allemagne, pas l'enseignement en Allemagne. Mmh. Et sur le budget de l'Institut Goethe, c'est autour de 400 millions. Sur les 400 millions, il y a 240 millions de subventions et le reste... Et le résultat...
Autofinancé.
Et là, je me concentre avec ce qu'on fait en Turquie, avec ce qu'on souhaite faire ensemble avec les Français dans d'autres lieux. On se souhaite sur le volet culturel, pas sur le volet enseignement de la langue.
Voilà, donc ce seraient des instituts qui seraient des instituts culturels et uniquement culturels, alors que souvent, aujourd'hui, c'est des instituts qui ont une espèce de double nature.
Non, pas forcément. Il faut juste que dans la programmation culturelle, on arrive à quelque chose de commun, alors que personne ne va attendre, vous entendez mon accent affreux, donc personne ne va attendre d'un Allemand de faire un enseignement de français et peut-être pas d'un Français de faire un enseignement d'Allemand.
Une question de soft power avec un accent en anglais affreux également, ça compte. Comment s'est organisé ce soft power allemand ? Au fond, il y a le ministère des Affaires étrangères, le Goethe-Institut, il y a aussi des Länder, on sait, il y a des organismes fédéraux, il y a aussi une fondation fédérale pour l'art. Quelle est la répartition, brièvement, entre ces cinq têtes du soft power allemand ?
Merci. On commence avec la Fondation pour l'art qui est présidée par Rotenisa Föckers. Elle est responsable des projets phares au-delà du fédéralisme traditionnel.
Et surtout à domicile.
Oui, et elle contribue activement à l'internationalisation de la culture en Allemagne. Mais nous, on coopère très très bien avec elle, par exemple en Afrique, où elle fait des projets extraordinaires. Ça s'appelle Turn, qui marche depuis 10 ans. Donc là, elle est plutôt
un modèle. Donc là, c'est plutôt la culture étrangère en Allemagne.
La culture étrangère en Allemagne, mais comme c'est... Mais
oui, c'est des allers-retours.
C'est quoi la limite de l'Allemagne ? Enfin, c'est quoi la limite entre l'intérieur et l'extérieur ? La production culturelle, elle est internationale par définition. Et on va renforcer la coopération. Deuxième aspect, les Länder. Non, les Länder n'ont pas la compétence dans les affaires étrangères. Donc a priori, ils n'ont pas de compétence en politique internationale culturelle. Donc le fédéralisme ne joue pas trop là-dedans. Et trois, nous, en tant que diplomates... Nous ne faisons pas la programmation culturelle. Nous, moi et mes collègues, on fait de la culture une politique culturelle, mais on ne fait pas de la culture. Nous, on laisse faire les professionnels de la culture, que ce soit des théâtres, que ce soit des éditions, que ce soit les Instituts Goethe ou que ce soit un service d'échange académique.
Notre invité également ce soir est Bob Lewis, le directeur du British Council. Bonsoir monsieur, vous êtes arrivé récemment, je disais tout à l'heure que vous avez un parcours d'ailleurs différent souvent des directeurs d'instituts culturels puisque vous avez été président de la Chambre de commerce franco-britannique, vous avez été le vice-président de British Telecom et également le directeur de Apple en Europe et désormais depuis quelques semaines, je crois depuis janvier, quelque chose comme ça, vous dirigez le British Council à Paris.
Oui, bonjour.
Comment... Comment on passe de Apple et de British Telecom au British Council?
C'est vraiment intéressant de regarder la différence entre le public et les choses maintenant. Parce que, bien sûr, je crois qu'il y a beaucoup de bénéfices d'arriver avec une perspective un peu plus internationale, plus commerciale, pour changer un peu la manière de travailler pour un institut qui est très long. On a commencé en 1940 avec une charte royale. La reine est toujours le patron de British Council. On fait toujours un peu entre Goethe et l'Institut français parce que nous sommes indépendants. Nous sommes une non-governmental public body. Comme ça, on a la liberté.
Comme le Goethe.
Comme le Goethe et comme Andreas a dit. Mais aussi, nous sommes très proches de l'ambassade dans chaque pays. Dans plusieurs pays, nous sommes dans le même bâtiment. Et, ici,
pas en France.
Mais en France.
Vous êtes Place des Invalides, c'est très beau d'ailleurs.
C'est assez loin, c'est...
Il faut traverser la Seine pour aller jusqu'à l'ambassade.
Oui, et j'espère que la Seine reste assez calme.
Oui, sinon vous ne pouvez plus passer. Un mot tout de suite, rentrant dans le vif du sujet. Le British Council, bien, c'est une longue histoire, une histoire européenne. Et puis depuis quelques temps, et c'est en cours, il y a le Brexit. Comment vous allez vous réorganiser? Comment vous voyez l'évolution de votre influence, du soft power anglais avec le British Council du fait du Brexit?
C'est intéressant parce qu'à la fin, chaque pays en Europe a une relation bilatérale. Quand on regarde France et Grande-Bretagne, l'histoire s'est partagée très, très, très longtemps. C'est intéressant que M. Macron voudrait envoyer le tapisserie Bayeux en Grande-Bretagne.
La tapisserie Bayeux.
Et je crois, après...
Mais on n'a pas dit oui pour la Joconde, vous savez.
Oui, c'est toujours quelque chose pour l'avenir.
Elle est british?
Oh, elle est mondialisée, vous savez.
Elle est italienne.
Elle a beaucoup voyagé.
Pour moi, elle est italienne.
Pour beaucoup, elle est française. Vous savez, il l'a emmenée avec lui en France. On ne l'a pas volée, ce n'est pas Napoléon.
Non, non.
Je crois que le Pergamon à Berlin a beaucoup des exemples de les choses de les autres pays aussi.
On parlera du British Museum.
Alors, le Brexit. Revenons à nos moutons.
Oui, pour moi, je crois... On va continuer notre relation entre France et Grande-Bretagne et aussi entre Royaume-Uni et Allemagne parce que c'est nous sommes les trois très très importants.
Donc vous n'annoncez pas ce soir la rupture de toute relation culturelle avec la France ni avec l'Allemagne.
Et c'est intéressant parce que en janvier on a fait un franco-britannique summit à Londres et les accords sont pas seulement pour la sécurité et la défense, mais aussi pour l'art, échange des étudiants, échange des chercheurs et un accord culturel. J'ai fait une signature avec le British Council et l'Institut français en janvier pour un accord entre les deux instituts, de partager et de faire beaucoup d'échanges. Et je crois qu'après le Brexit, on va continuer un peu comme ça.
Si on revient au modèle du British Council, et lorsque je vous ai rendu visite cette semaine pour préparer, j'étais dans une véritable ruche d'activités commerciales, linguistiques. On a l'impression qu'on est dans une sorte de service universitaire d'apprentissage des langues, etc. La part du financement par les langues, et notamment aussi les cours, les examens que vous labellisez, est extrêmement important dans le modèle économique du British Council.
Oui, je crois, pendant les années, la réduction de la subvention a continué. Maintenant, nous avons moins de 20% mondial qui appartient à la
gouvernement. Vous êtes auto-financé à 80% en gros.
Et en France, 90% minimum.
Et sinon, c'est le reste, c'est le Foreign Office du Commonwealth, c'est ça qui vous finance?
Oui, c'est le FCE. Et dans chaque pays, la subvention, c'est utilisé que pour le ODA, le Overseas Development Aid. Et quand on regarde notre objectif de le British Council, c'est promouvoir relations culturelles, bien sûr, promouvoir connaissance de Royaume-Uni, encouragement, coopération culturelle, scientifique, technologie, éducation et recherche entre les pays. Et ça va continuer. Et finalement, développement d'éducation, même écoles, lycées, mais aussi les universités.
Enseignement supérieur et puis programmes Erasmus et Erasmus+, que vous gérez. Un mot sur les diplômes, parce que il y a une marque très connue, je croyais même, d'ailleurs c'était une erreur, que vous alliez, que vous la décerniez, à savoir le fameux TOEFL. Mais comme on est British Council, on a d'autres types de diplômes que vous donnez. Il y a un véritable marché au fond de ces diplômes, et le British Council est un de ceux qui joue un rôle dans, entre Cambridge et IELTS, vous jouez un rôle central dans ce dispositif.
Oui, absolument. On a une stake dans, je crois que c'est moitié avec Cambridge.
Une prise de participation, on dirait,
oui,
en français.
Exactement, une prise de participation. Et maintenant, pratiquement 3,5 millions des examens chaque année sont IELTS, qui est le plus connu, plus connu. Et maintenant, pour entrer en Grande-Bretagne, en Royaume-Uni, il faut un IELTS examen à haut niveau.
Pour entrer à l'université, vous voulez
pour
dire
université,
oui, pas pour rentrer tout court.
Pour non, pour...
Maintenant, vous pouvez dire
pour
pas
visiter, au niveau d'anglais. Pour visiter, non. Mais si vous voulez rester pour toute la vie, et, il y a un niveau d'anglais nécessaire. Un peu comme en France, quand vous voulez nationalité française, il faut un niveau de français.
Alors, venons-en à des questions peut-être communes à tous les deux. Andreas Gorgen, vous êtes directeur général pour la culture et la communication, ministère allemand des Affaires étrangères. Bob Lewis, directeur du British Council à Paris. On parle de diplomatie culturelle et d'influence, en l'occurrence de l'Allemagne et de la France. Quelques questions transversales. D'abord, première question pour tous les deux. C'est important d'avoir des activités culturelles un peu partout dans le monde, d'avoir une influence, de diffuser la langue allemande ou anglaise, etc. Mais quid des migrants ? En Allemagne, il y en a plusieurs millions sur votre territoire. Est-ce que ça a un sens d'aller porter la bonne parole et d'enseigner la langue de l'autre bout du monde quand on n'arrive pas à le faire à domicile pour ses propres migrants ?
Pourquoi vous dites qu'on n'y arrive pas ?
Parce que lors des visites récentes en Allemagne, j'ai vu qu'il y avait des débats immenses sur, sur des gens qu'on ne savait pas où loger, qu'on ne savait pas nourrir, qu'on ne savait souvent même pas, évidemment, apprendre la langue, et qu'il y avait un débat sur ça. Donc, que se passe-t-il à ce niveau-là ?
Voilà, mais le fait même qu'il y a un débat prouve qu'il y a une volonté de la société d'améliorer. Et la contribution de la politique culturelle à l'étranger, elle est notamment dans l'enseignement de la langue. C'est-à-dire les expériences que nous avons faites dans les écoles allemandes à l'étranger, le fameux diplôme de la langue allemande comme langue étrangère, il est maintenant appliqué en Allemagne et il renforce les cours qui sont dispensés à des migrants en Allemagne. Deuxième exemple pour où la politique culturelle à l'étranger peut servir dans une société d'immigration. D'ici 5 ou 10 ans, ou même actuellement, on a des classes scolaires où entre 40 et 60% des élèves ne viennent pas d'une origine allemande depuis 2 ou 3 générations. Or, une des raisons d'être de l'Allemagne, c'est la commémoration de la Shoah. La Shoah fait partie intégrale de l'Allemagne. Comme quoi, il sera important, à travers les Instituts, à travers notre connaissance sur les discours, sur les narratives qui existent dans de tels pays, de faire fructifier ça pour améliorer des livres de classe, pour que la Shoah et notre compréhension de la Shoah, qui est une raison d'être de l'Allemagne, puisse être mieux enseignée et puisse être mieux appris par ceux qui ont vocation de devenir des Allemands.
Et qui sont souvent des musulmans, avec tout un débat très montant aujourd'hui sur l'antisémitisme dans ces populations.
C'est pour cela qu'on a lancé un projet de coopération entre l'Institut Goethe et un institut qui s'appelle Georg Eckert Institut, qui est le meilleur institut scolaire
Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir des Goethe Instituts dans les camps syriens, par exemple, en Allemagne ? Enfin, c'est une idée un peu farfelue, peut-être, un peu excessive.
On a fait mieux que ça, Frédéric, on a fait mieux que ça, à travers un institut qui s'appelle Institut Archéologique Allemand. Eux, ensemble avec l'Institut Goethe, ils font maintenant de la formation et du travail culturel dans des camps de réfugiés, par exemple en Jordanie et au Liban. Oui, aussi à travers des moyens de la politique culturelle, on ne va pas rester dans les 1% de la haute culture, mais la culture, c'est une question sociale. Donc que ce soit dans les camps de réfugiés, et encore une fois, il y a une aide humanitaire et il y a une aide à l'humanité. Et l'aide à l'humanité, elle est par l'éducation,
la
et
culture,
par la culture,
la langue,
donc
etc.
C'est important que le Lance Hugot s'est tourné vers ça.
Deuxième question transversale pour tous les deux, le numérique. Comment est-ce que vous voyez la diplomatie culturelle, que ce soit celle du Goethe Institut, que ce soit celle du British Council, changer du fait du numérique?
Mais il y a plein de questions transversales ce soir. Déjà la première, elle était pour Bob. À chaque fois qu'il va au British Council, il doit traverser la Seine, et il va chanter sous le pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau coule la Seine, et puis il sera tout nostalgique.
Et il va trouver une application pour
vous
faire ça.
Vous avez commencé avec David Bowie, qui est quand même une question transversale, parce que Heroes, il a écrit à Berlin.
Voilà, et puis il est anglais, mais il était aux États-Unis.
Pour l'amitié germano-britannique.
D'ailleurs, moi je pense qu'il est américain, n'est-ce pas Bob Lewis, David Bowie.
et pour l'espace digital, mais c'est comme l'espace analogue. Donc les instituts culturels, notre présence dans les discours. Elle ne peut pas se limiter à un espace analogue. Elle doit aussi aller dans le digital. Un petit exemple. Regardez les abonnés des canaux YouTube de Russia Today par rapport à BBC Arabica ou à France Monde. Vous n'allez pas lire. C'est à peu près le double. Le double de la BBC et le double
donc
de
il faut
France.
Être présent sur ces réseaux sociaux, Bob Lewis.
C'est juste parce que notre ministre de culture, c'est aussi digital, creative culture, media,
commerce, business.
Non, c'est digital, media, sport et culture ensemble. Parce qu'en réalité, le digital, c'est un important impact. Et pour nous, on a déjà fait un accord, par exemple, avec l'Institut français de partager notre expérience digitale entre les deux instituts. Et pour nous, on utilise maintenant pour éducation un mélange de face-to-face avec aussi digital. Et je crois pour toute la culture, par exemple pour notre radio internationale, on a 2 heures chaque semaine de musique contemporaine qui était diffusée mondiale, digitale.
Et alors justement, est-ce que ça peut être un vrai moyen aussi de se désengager de certains endroits? Parce qu'on sait que tout le monde, aussi bien les instituts français qu'en Allemagne ou en Angleterre, il y a une question de budget qui reste très importante. Vous, par exemple, le British Council, vous avez fermé quasiment tous vos British Council en Russie, justement, on parlait de Russia Today, à part celui qui est à Moscou. Ça, c'est des choix qui sont des choix économiques, qui sont des choix politiques, qui sont des choix culturels. Et est-ce que le numérique doit ou peut jouer un rôle là où on n'est plus physiquement? Ah, réponse, je vous vois faire non de la tête.
Ah non. Absolument pas.
Andreas Gorgian.
Un kilomètre d'autoroute, il coûte à peu près 1 million d'euros. Quand vous regardez les dépenses qu'on a dans la politique culturelle à l'étranger, ça correspond à peu près, en Allemagne, à 160 kilomètres d'autoroute. Mais la culture et l'éducation, c'est l'infrastructure. C'est l'infrastructure du 21e siècle. Donc, non. Deux, sur le digital.
Donc, on ne va pas se désengager physiquement, c'est ça que
vous
voulez
dire? Non, on
ne
va pas se désengager. Non. Et en plus, dans des sociétés qui sont des sociétés.
On
ne
fait
risque,
plus d'autoroute. Oh.
Bon, vous avez déjà le péage. Deuxièmement, dans les sociétés à risque, il y a un besoin énorme des lieux physiques qui sont des espaces de liberté. Troisième aspect. Moi, je pense, on en a parlé à l'entrée d'un projet magnifique où vraiment la France peut servir de modèle, des microfilies qui est établie par la Villette. Il faut aller dans d'autres lieux à travers d'autres moyens et avec les nouveaux moyens. Mais il faut garder les infrastructures pour donner de l'accès à la culture.
Mais alors pourquoi
et
justement
c'est
ce
aussi une infrastructure digitale.
Bien sûr, pourquoi se retirer de la Russie à un moment donné quand même un peu crucial, pour le dire.
Ça dépend. Chaque année, on change un peu notre stratégie par rapport les Nordiques. On a réduit notre face-à-face dans les pays comme ça et aussi en Russie. Mais avec le digital, on est toujours là. Mais comme Andreas a dit, pour le Moyen-Est, pour les pays de vraie pauvreté, des problèmes de migrants en Lebanon, où il y a pratiquement double la population, il faut les gens à place, d'aide directement avec toutes les moyens. Parce que la démocratie est une des choses qu'on inclut dans la culture.
On est presque au terme de cette émission. Encore une question transversale. On en évoquait en début d'émission la rémunération des auteurs qui faisait débat en France au Salon du Livre. Qu'est-ce que fait le Goethe Institut? Qu'est-ce que fait le British Council en termes de rémunération des écrivains lorsqu'ils viennent faire des conférences chez vous, par exemple?
Pour nous, notre objectif, c'est d'aider les auteurs émergents, les jeunes, les gens qui sont à le début de leur carrière. Et ça, c'est différent que les gens qui sont très réputés, qui ont déjà beaucoup d'argent, et ils sont un peu comme les stars de football, etc., qui reçoivent un argent un peu différent. Pour nous, on vraiment
focus... Vous voulez vous concentrer sur ça.
Sur ça.
Andreas Gorgen.
Pas tout à fait d'accord. Frédéric, vous avez parlé tout à l'heure du modèle économique de la culture qui est en changement profond. Donc on va vers un marché de produits où le produit, que ce soit le disque, que ce soit le livre, rémunère aussi l'auteur, vers un marché de prestations, un marché de services. Donc il est tout à fait logique de se poser la question, mais est-ce qu'il ne faut pas rémunérer le service alors qu'anciennement on avait rémunéré que le produit?
Le produit, oui. Pour terminer cette émission, peut-être juste un jugement de votre part, si vous l'osez, sur les dispositifs français. Ça a été évoqué par Zoé Sess tout à l'heure, Institut français, nos ambassades, les alliances françaises, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la France et de son soft power, l'un et l'autre? On commence par vous, Bob Lewis.
Bon.
Et pas de langue de bois hein, ce soir.
Non, je suis très content qu'avec le système en France, soft power, c'est très important. Vous avez déjà montré un bon succès mondial. Avec ça. Pour moi, j'apprécie beaucoup l'influence de France mondiale en soft power.
Andreas Gorgen.
Premier point, vous ne pouvez pas imaginer l'Allemagne sans la France. Donc arrêtons un peu de nous faire de la concurrence et rendons-nous un peu compte du fait que dans ce monde, on ne comptera pour rien si on reste dans une logique qu'est-ce que fait la France, qu'est-ce que fait l'Allemagne.
Deuxièmement,
on a grandement besoin de la France et tout le monde se réjouit que la France ait refait surface depuis un certain moment. Et je pense qu'on a un trait à apprendre la France qu'il y a à apprendre et à ne pas répéter de la France qu'il ne verra pas répéter. Par exemple, sur la question du colonialisme, je pense que le président Macron, il a montré un chemin très intéressant. On va le suivre. Par contre, sur le rayonnement, moi, je suis pas tout à fait d'accord que le rayonnement d'un État-nation soit le but ultime d'une politique culturelle.
Le discours sur l'Europe, vous avez plu, cela étant.
Tout à fait.
Cette année, je crois, c'est le meilleur moment, parce que c'est le centenaire de la Première Guerre, pour nous trois de rester ensemble et de faire les choses vraiment soft power.
Commémoration de 14-18,
oui.
Donc.
Mmh. Exactement.
Bien, c'est sur cette note triste, certes, mais de commémoration unie que nous allons terminer cette émission. Merci infiniment à tous les deux. Andreas Gorgen, vous dirigez l'ensemble de la Direction Générale de la Culture, la Communication, Ministère des Affaires étrangères allemand. Bob Lewis, vous êtes nouveau directeur de British Council à Paris. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Soft Power. Pour aller plus loin sur les diplomaties culturelles européennes, notamment britanniques et allemandes, vous pouvez consulter des articles, des ouvrages et les références qu'on vous poste sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur notre page sur le site de France Culture et aussi d'ailleurs sur notre page Facebook qui s'appelle Soft Power. Dans un instant, Soft Power ça continue, seconde partie de cette émission. 20h10, le débat, le numérique et politique, avec ce soir un débat consacré au projet de loi contre les fake news. Compte tenu de ce projet de loi, ses objectifs, ses limites, nous en débattrons avec ce soir Gaël Duval, fondateur de jechange.fr, proche de La République En Marche, et Eliott Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG, le mouvement ONG. Dans un instant, à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation.
Jacques Priol, il vient d'entrer dans le studio, auteur d'un livre paru aux éditions FIP Éditions, qui est un excellent ouvrage, le Big Data des territoires. On en parle avec lui tout à l'heure à 20h.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power sur le site de France Culture ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout cela à suivre après Feu Chatterton, Zoé Sfès qui incarne un certain soft power de la chanson française actuellement, notamment en Colombie.
Oui, pas que, mais c'est vrai, Feu Chatterton, groupe de 5 jeunes hommes qui pratiquent un mélange absolument prodigieux de vrai rock musicalement ambitieux, voire parfois de R&B sur leur dernier album, et de textes extrêmement fins, ciselés, c'est de la vraie langue française, avec un chanteur Arthur Teboul qui mélange ses propres textes à ceux d'Apollinaire, on en parlait tout à l'heure, ou encore d'Aragon. Leur premier album, Ici le jour a tout enseveli, avait très bien marché en 2015. Il avait été lauréat notamment du label FAIR, dispositif de soutien qui permet de valoriser des jeunes chanteurs français français à l'étranger avec une tournée organisée par les instituts français en Colombie et en Équateur. Leur deuxième album est sorti vendredi et ça s'appelle L'Oiseleur. On écoute tout de suite Ginger.
Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre, mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez, vas-y. Que l'enfer entier est à nos trousses. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Rien, vite, suis-moi, mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol sous nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Au cœur, l'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
Les paroles poétiques de feu Chatterton, Ginger, Ginger, à l'instant sur France Culture à 20h02.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Jacques Priol.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. On vous reçoit dans cette case innovation de Soft Power parce que vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru il y a quelques semaines déjà, le Big Data des territoires. Alors le titre est évocateur, hein, il dit assez bien ce dont ce livre parle. Vous êtes spécialiste des gestions de données publiques, c'est le titre que vous donnez sur le quatrième de couverture. Mais avant de vous spécialiser sur ces questions et cet enjeu de taille que sont notamment la question des données publiques, mais pas que au niveau local et des collectivités territoriales, donc pas uniquement au niveau de l'État, vous avez notamment travaillé en fait en plein cœur de tout cela, puisque vous avez notamment été directeur HLM, vous avez eu des responsabilités politiques. Alors la question, elle est très idiote, on parle beaucoup ici de données dans Soft Power, et ce depuis plusieurs années. Pourquoi cette idée et cette volonté de consacrer un livre entier à cette question de la manière dont les territoires doivent, peuvent travailler, s'approprier ces données, cette fameuse question des données?
Vous l'avez dit, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans des collectivités locales. J'ai eu des responsabilités comme dirigeant territorial, j'ai conseillé des élus également. Et j'ai fait le constat, avec beaucoup d'autres, que quand on met en œuvre des politiques, quand on imagine des politiques, eh bien souvent on manque de données, on manque d'informations, parce que c'est des sujets compliqués. Une politique d'habitat, une politique urbaniste, une politique d'éducation, c'est des choses compliquées qui mélangent énormément de sujets. Et quand on bouge quelque chose quelque part, quand on prend une décision, on n'en mesure pas toujours l'impact. Et d'ailleurs, les sociologues appellent ça souvent des... Il y a une théorie sur la rationalité limitée. Et il se passe quelque chose en ce moment. Il se passe quelque chose en ce moment, c'est que d'un seul coup, on a une avalanche de données. On a énormément de données qui n'étaient pas disponibles pour construire, fabriquer des politiques publiques jusqu'à présent, qui arrivent et qui sont disponibles. C'est ce qu'on va appeler le big data.
Mais qui sont des données qui ne sont pas nécessairement, justement, à la portée de la collectivité territoriale, qui existent par ailleurs, qui sont détenues par d'autres acteurs parfois, mais il y en a, en effet.
Il y en a beaucoup. Il m'arrive, lorsque je rencontre des élus aujourd'hui, dans une autre configuration, dans le travail d'accompagnement que je fais maintenant auprès de collectivités locales, de leur dire, vous savez, monsieur le maire, Google en sait plus que vous sur ce que font et ce que sont vos habitants. Et c'est souvent vrai, parce qu'aujourd'hui, par tous ces outils, tous ces systèmes qu'on appelle le big data de façon générale, eh bien, on a une masse d'informations disponibles sur la manière dont les gens se déplacent, sur la manière dont ils consomment, entre guillemets, de la culture, dont ils consomment tout court aussi leurs courses, leurs achats, etc., bien sûr. Et c'est très intéressant de voir que ces données aujourd'hui peuvent être, pour une part, utiles à l'intérêt général. Pour une part seulement. Beaucoup de ces données sont collectées pour nous placer de la publicité, pour nous vendre des produits. Mais pour une part, ces données ont un intérêt pour ceux qui sont en responsabilité de la chose publique.
Et alors justement, avant de rentrer en détail sur la nature de ces données, sur la manière dont on peut s'en servir, sur la manière dont on doit s'en servir, en tout cas, dont on doit en tout cas organiser une stratégie et une manière de l'utiliser, est-ce que, d'une part, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a cette culture-là? Parce que, évidemment, au niveau de l'État, on ne cesse de rabâcher ce terme de Startup Nation. Le président Macron se montre très volontariste sur ces questions, mais on le sait, la France est un pays décentralisé, et il y a toute une foule de l'autorité qui est entre les mains d'acteurs beaucoup plus locaux. Et est-ce qu'il y a cette culture? Parce que cette culture, elle est arrivée, y compris pour des gens très connectés, avec une grande, parfois, violence. Est-ce que vous rencontrez des gens qui y songent, qui y pensent, qui aimeraient s'en servir? Est-ce qu'il y a cette culture-là aujourd'hui?
Alors, je vais vous donner des exemples, mais ils sont marginaux. Il y a quelques cas, j'y reviendrai, qui montrent que des acteurs publics se sont saisis du sujet. Pour autant, ça n'est qu'une minorité. Et aujourd'hui, il y a cet enjeu de la culture de la donnée, de la compréhension de ce que sont ces phénomènes et de leur impact sur l'intérêt général. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour répondre à votre première question. C'est l'idée qu'il faut aujourd'hui aller expliquer, prendre son bâton de pèlerin pour expliquer aux élus, aux dirigeants, aux acteurs publics, mais aussi aux entreprises qui travaillent avec les acteurs publics, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui s'occupent de plein de services publics et qui produisent une masse colossale de données qui, si on n'y prend pas garde, ne sert à rien, ou alors ne sert qu'à ceux qui veulent l'utiliser pour nous vendre des produits.
Alors évidemment, il y a aussi la question de l'open data, parce que vous pourriez peut-être redéfinir pour nous ce que c'est que l'open data, et ce qu'il va se passer de manière concrète, que les élus le veuillent ou l'aient anticipé ou pas, de manière très très rapide, donc d'ici je pense l'année prochaine, il va y avoir cette question de l'open data. Est-ce que vous pouvez me rappeler justement ce qu'il en est, et quelles sont peut-être les villes qui ont anticipé ces questions-là, et qui sont déjà en plein dedans? On pense notamment à des capitales comme Rennes.
Alors l'open data, c'est l'ouverture des données publiques. Au départ, c'est un mouvement, je dirais quasiment, de philosophie politique qui nous vient d'outre-Atlantique, dans les pays nord-américains, où il y a l'idée que pour qu'un territoire ou un pays, d'ailleurs, soit bien gouverné, il faut que les oppositions, des contre-pouvoirs, aient accès à un maximum d'informations pour vérifier que ceux qui ont les manettes font bien leur boulot. À partir de ce mouvement qui a démarré dans les années 2007, 2008, 2009, New York, Montréal, eh bien, en Europe, on l'a fait d'une autre manière. Et notamment en France, la première ville en France qui a ouvert ses données publiques, c'est Rennes, en 2010. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 200 collectivités locales en France qui ouvrent leurs données. Ça veut dire quoi, ouvrir ces données? Ça veut dire qu'il y a un espace, sur Internet en général, un portail, dans lequel on va trouver toutes les données qui expliquent la manière dont les décisions politiques sont fabriquées. Et des données budgétaires, des données très concrètes sur les délibérations votées par les élus, la manière dont tout ça est fabriqué. Et cette ouverture des données, en France, va devenir obligatoire pour toutes les villes de plus de 3500 habitants à partir d'octobre 2018. C'est la loi pour une République numérique de 2016 qui, deux ans après, porte ses fruits en la matière.
Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a un enjeu, donc il va falloir s'y préparer parce qu'on va y être d'une certaine manière forcé, même si ça risque de prendre du temps. La vraie question aujourd'hui, c'est aussi cette donnée, vous en parlez très bien dans votre livre, cette donnée, on l'a bien entendu, c'est une donnée publique qui sera donc a priori disponible probablement dans deux ans, si tout le monde met un petit peu de temps. Mais évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est la donnée qui n'est pas détenue par ces collectivités territoriales ni par l'État. Vous l'avez dit, on a des GPS, on a Google, on a toute une foule de gens qui ont des informations sur nous. Comment est-ce qu'on doit penser cette chose-là? Parce qu'on a souvent dit, bon, ils ont de toute façon tous les pouvoirs, ils ont gagné ce combat de la donnée, on est très en retard. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
C'est une question essentielle. Parce que pour pouvoir bien gérer un territoire, il faut accéder à ces données qui sont aussi produites par d'autres. Je vais prendre un exemple très rapidement qui est celui de Airbnb. On en parle beaucoup par rapport au fisc, par rapport aux déclarations d'Airbnb ou des gens qui louent leurs appartements. Mais ce qu'on ne sait pas concernant Airbnb, c'est que dans certaines communes touristiques notamment aujourd'hui, plus de 50% des touristes qui arrivent via Airbnb. Comment le maire fait pour calibrer les horaires d'ouverture du service culturel? Comment le directeur du CHU fait pour savoir combien de personnes doivent être présentes aux urgences si plus de la moitié des flux touristiques ne sont plus disponibles alors qu'ils l'étaient avant quand ça passait par l'Office du tourisme et les hôtels? C'est ce qu'on appelle une donnée d'intérêt général. Et cette loi pour une république numérique a aussi défini cette notion de donnée d'intérêt général qui dit que ces données produites par des entreprises privées qui n'ont rien à voir avec l'action publique, Airbnb, mais Waze, plein d'autres.
Waze, donc le signal de GPS qui, pareil, a des informations cruciales sur les embouteillages, sur les travaux, qui sait tout.
Sur les parfois, accidents.
Sur les accidents, parfois plus vite que les autorités ne le savent.
Et Waze, qui par ailleurs est utilisé en France par 7 millions d'automobilistes au quotidien, qui souvent ne savent pas que Waze appartient à Google et que l'ensemble des données collectées lorsqu'on se déplace en utilisant Waze servent aussi à la stratégie publicitaire de Google. Eh bien, ces données-là, il est important de construire, elles sont d'intérêt général, il est important de construire des stratégies sur le territoire pour qu'en parallèle de l'ouverture des données publiques, les acteurs publics qui représentent cet intérêt général puissent y avoir accès.
Donc ce serait faire quoi, par exemple, du donnant-donnant avec du Waze, dire donnez-moi ces informations et moi, en échange, est-ce que finalement on a une monnaie d'échange? Puisque de toute façon, à partir de 2018, nos données publiques, on les aura données.
On a une monnaie d'échange si on construit ce qu'on va appeler une gouvernance de la donnée sur un territoire. L'exemple de Rennes, j'y reviens parce que c'était la ville pionnière en 2010. Aujourd'hui, Rennes est en train de créer, c'est une première en France, un service public métropolitain de la donnée dans lequel les acteurs publics et les acteurs privés réfléchissent ensemble à la manière dont des données anonymisées surtout, pas les données personnelles des habitants, des données anonymisées peuvent être utilisées, mises en commun pour améliorer la qualité du service public de façon générale et puis des sujets qui auront aussi un impact positif pour les entreprises.
On est dans des logiques. Les associations aussi, pas seulement
les associations, la démocratie, les acteurs, les citoyens qui vont vouloir eux aussi exercer directement à partir de ces données, d'une autre manière, le contrôle sur la façon dont leur territoire est géré.
Donc en fait, c'est ça. Aujourd'hui, de toute façon, on a des grands groupes américains qui ont, de toute manière, pris une forme d'avance, même si le terme n'est pas très heureux. Donc vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est de toute façon, investissons cette question, puisqu'elle est de toute façon sur la table. Si de toute façon, on la délaisse, eux la garderont, et nous, on n'aura pas accès à ça. Vous avez évidemment mis en avant la question de l'anonymisation des données. Il y a une loi sur la protection des données, un règlement qui va entrer en vigueur très vite. Mais effectivement, la question de la souveraineté, parce que on le sait aujourd'hui, l'État français, on en parle souvent dans Soft Power, l'État français et les collectivités territoriales, eh ben, ils ont les moyens qu'ils ont. Est-ce qu'on sait justement, est-ce qu'on a, on a aujourd'hui une culture et comment est-ce qu'on peut faire, quelles mesures on peut essayer de mettre en place pour que ces données qui vont venir à la fois des entreprises, si on arrive à travailler avec elles, et qui viennent des données publiques, est-ce qu'on a les protocoles de sécurité, les serveurs adaptés pour gérer tout ça au niveau local? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'État, mais là on parle de collectivités territoriales, de villes de 3500 habitants.
C'est un sujet qui est devant nous. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour poser ces enjeux. La question de la souveraineté publique sur la donnée d'intérêt général, elle est liée à la notion de protection de la donnée des habitants. Ce sont des enjeux qui sont tout à fait liés. Il est important que les acteurs publics, aujourd'hui, s'en saisissent. On parle de construire des data centers locaux. On parle de stratégie locale.
Des serveurs souverains.
De serveurs souverains. Ce sont des questions qui sont maintenant sur la table.
Merci beaucoup Jacques Priol, auteur donc du Big Data du territoire, paru FIP édition. Je crois que c'était à l'automne ou
en
novembre dernier. Merci beaucoup avec nous.
Merci Jacques Priol d'avoir été avec nous ce soir. Le temps de vous dire que demain matin sur France Culture, dans les matins, Guillaume Erner reviendra sur le congrès du FN, le Front National, qui s'appellerait, c'est encore inconditionnel désormais, Rassemblement National. Tout ça donc demain dans les matins.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
20h passées de 12 minutes, le numérique et politique, le débat de ce soir est consacré au projet de loi sur les fake news, son contenu, ses objectifs, ses limites. Et nous en débattons ce soir avec Gaël Duval, le fondateur de jechange.fr, proche de La République En Marche. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et Eliott Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG, qui est en train peu à peu, pas à pas, de se lancer.
Bonsoir monsieur Martel.
Cette semaine, Le Monde et Next Impact ont révélé les documents transmis par l'exécutif aux députés de La République En Marche concernant le projet de loi de lutte contre les fausses informations, aussi appelées fake news. On retient deux axes parmi ces propositions. D'abord celui de la transparence, donc plus de transparence. Il s'agit d'imposer, ou en tout cas d'essayer d'avoir plus d'informations de la part des plateformes comme Facebook, Twitter ou encore YouTube en matière de leur publicité, à la fois vis-à-vis vis-à-vis des autorités, mais aussi des utilisateurs, d'où ça vient, comment ça marche. La seconde partie est davantage assimilable à un contrôle accru de la diffusion de l'information. Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, verrait ses pouvoirs augmenter. Les internautes pourraient faire appel à un juge pour faire supprimer des contenus rapidement en période électorale. Pour commencer, Gaël Duval, vous êtes plutôt proche des positions de La République En Marche et du gouvernement. Est-ce que vous pensez que ces propositions vont dans le bon sens?
Alors, elles vont dans le bon sens pour un premier point déjà, c'est qu'elles vont re-territorialiser et nationaliser la législation sur les plateformes. Je pense qu'il y a un vrai sujet très très important, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes en général, des GAFA et autres, ont une législation qui est plutôt gérée et régie par des règles internationales aux États-Unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple,
des règles américaines,
une vision américaine, donc des censures à l'américaine. Donc ça veut dire que vous avez le droit de à peu près dire n'importe quelle horreur sur n'importe quoi et insulter
mais
n'importe
pas
qui.
Avoir un bout de mais en revanche, dans un bout de sein
et un tableau
siècle,
du 19e siècle est censuré. Ouais. Donc je pense que le vrai point qui est très très utile et très important dans le projet de loi quel qu'il sera, c'est que de toute façon, il ramène un peu le territoire et la nation et la vision nationale de notre point de vue là-dessus en haut de la piste. Ensuite, après, sur les fake news, c'est un peu compliqué parce que bon, déjà, la notion de fake news, elle est intrinsèque à l'histoire, aux médias, aux informations. Enfin, il y a une très jolie phrase de Napoléon qui dit que l'histoire est une succession de mensonges sur lesquels tout le monde est d'accord. C'est une réalité. Donc, il y a dans l'histoire eu des mensonges qui sont restés des vérités ou qu'on croit comme des vérités. Quand on creuse, en réalité, elles le sont pas. En revanche, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la multiplication des réseaux sociaux, la multiplication des plateformes et le fait que tout le monde puisse le faire n'importe quand, n'importe comment, nécessite effectivement, j'allais dire malheureusement, parce que c'est jamais super quand le législateur intervient sur ce genre de d'informations, mais elle nécessite quand même une intervention du législateur pour essayer de limiter l'amplification de ce phénomène et intervenir le plus tôt possible, particulièrement quand on sait que c'est totalement faux et que c'est totalement manipulé.
Et Dodd de Perse sur cette question?
Oui, non, mais c'est évidemment, il y a une question qui se pose, et notamment en cas de période électorale, où effectivement, aujourd'hui, c'est quand même très simple de diffuser un contenu en payant quelques dizaines d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros avec n'importe quelle information auprès de gens qu'on cible, quoi. Et ça peut poser question. C'est le cas en Angleterre également, où on voit que lors des campagnes locales, on a le droit d'aller cibler n'importe quel parti politique, on a le droit d'aller cibler extrêmement précisément avec un plafond de dépenses chaque circonscription. Et on peut imaginer que ça permette une forme de manipulation qui peut poser question dans un cadre démocratique.
Donc ça veut dire que vous êtes plutôt d'accord sur l'idée de faire quelque chose. Et après, vous avez peut-être des divergences sur comment le faire.
Exactement. Moi, je pense que ce qui est le plus inquiétant, la question de la transparence sur les plateformes, c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut même imaginer aller plus loin. On ne sait pas aujourd'hui quelles sont les informations qui sont utilisées à notre propos pour nous afficher tel ou tel contenu sponsorisé. On ne sait pas si on est ciblé parce qu'on est jeune, parce qu'on est une femme, parce qu'on est une jeune femme noire.
Parce qu'on habite à tel endroit, etc.
Et on devrait pouvoir avoir accès à plus d'informations à ce sujet sur la part des plateformes.
Il y a un mouvement là-dessus, sur la réglementation RGPD, sur des obligations qui sont faites aux plateforme de publicité aujourd'hui sur ce qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire le fait d'avoir une publicité au moment où vous avez été sur un autre site. Généralement, il vous explique pourquoi vous avez été bombardé et harcelé.
Quel est selon vous le problème, Elliot Lepers?
C'est toute l'habileté du gouvernement et c'est un peu toujours pareil. C'est que finalement, on a une mesure à peu près intéressante qui camoufle une autre mesure qui est absolument ahurissante, qui est celle de vouloir organiser une forme de censure potentielle d'État de n'importe quel contenu, notamment politique, et donc que l'État puisse se positionner.
Mais ça, vous y croyez vraiment?
Comme
c'est
garant
pas l'État qui
de qu'est-ce qui est vrai ou pas, quoi.
C'est moi, pas l'État ça, qui se positionne. La réalité, c'est que l'État donne les moyens à tout le monde, mais à tout le monde, c'est-à-dire pas que l'État, mais à tous les partis politiques, quels qu'ils soient, et n'importe quel citoyen, de lutter contre une fake news. Après, effectivement, il y a une logique qui est presque de censure, mais il y a un moment donné, c'est plutôt à quel moment tout ça va être mis en place pour que on va réagir suffisamment tôt pour que le faux reste du faux et que le faux ne devienne pas un vrai. Et le vrai enjeu, il est là pour tout le monde, il n'est pas là que pour le gouvernement, que pour le parti majoritaire, mais je pense qu'il y a plein de partis qui ont envie que des vérités soient, enfin des fausses informations soient pas transmises comme des vérités, et surtout avec la viralité où les gens l'ont lu, ils savent même pas trop.
Enfin, Elliot de Perse.
Moi, j'écoute aussi ce que disent les journalistes, et notamment la presse indépendante. L'objectif de
le Syndicat national des journalistes aussi, qui a réagi,
voilà,
le SNJ,
contre ce texte.
De manière très critique tout récemment. Hein, sur
enfin, il n'a pas dit grand-chose, il a juste dit qu'il était contre, mais ce qui est un peu naturel
Je lis juste un bout du communiqué pour vous amener d'ailleurs à réagir. Le communiqué du SNJ cette semaine s'est construit sur une confusion entretenue entre plateformes Internet et médias professionnels d'information. Ce texte, qui dit vouloir protéger contre les risques de manipulation de l'information en période électorale, peut aussi devenir un moyen d'entraver le travail des journalistes professionnels, etc.
Ça existe déjà. Pardon.
Ouais, moi c'est ça qui m'inquiète particulièrement. L'objectif, c'est de restaurer la confiance dans les médias, dans le journalisme. Et pour y arriver, c'est pas la censure qu'il faut organiser. C'est au contraire permettre plus d'indépendance aux médias. Donc permettre que les médias soient moins concentrés entre les mains d'une poignée de milliardaires. C'est revoir les aides à la presse, les subventions qui sont aujourd'hui qui se comptent en dizaines de millions d'euros et qui vont de manière absolument indifférenciée dans tout un tas de presse qui colportent effectivement des informations qui ne sont pas vérifiées. Donc c'est comment est-ce qu'on refonde l'aide à la presse, comment est-ce qu'on garantit plus d'indépendance, comment est-ce qu'on garantit finalement plus de pluralisme. Et c'est comme ça qu'on peut restaurer la confiance dans les médias, pas en organisant une forme de censure.
Mais là où le mot me gêne, c'est le mot censure. Ouais. Il n'y a pas une volonté de censure, il y a une volonté de donner les moyens à tout le monde de pouvoir lutter contre une information qui est jugée ou perçue ou comprise comme fausse.
Alors,
il n'y a pas une décision politique.
Voyons les moyens qui sont proposés pour entrer dans le gros du sujet. D'abord, il y a la question du périmètre d'application, de la période, notamment période électorale. Ensuite, il y a l'idée d'élargir les missions du CSA. Enfin, il y a la question de pouvoir demander, chaque individu peut demander à un juge civil des référés de décider l'interruption d'un média ou, en l'occurrence, d'une information qui serait fausse, en se prononçant dans les 48 heures sur la véracité d'une information, là où, et je cite encore le communiqué du Syndicat national des journalistes, là où parfois, eh bien, pour vérifier ce contenu, il faut plusieurs mois d'enquête à ce sujet. Lyot Lepers.
Le risque, c'est d'aller vers une forme de simplification et c'est d'aller vers une forme de traitement un peu indifférencié où on va vouloir censurer, masquer plus de contenu par principe ou
Ces plateformes, du coup, vont beaucoup plus fermer des comptes ou annuler des tweets ou des messages Facebook par peur de risquer des amendes.
C'est un peu ce qui se passe en Allemagne. On voit avec la nouvelle législation qui est entrée en vigueur en Allemagne sur les propos haineux et où effectivement les plateformes sont exposées à un système d'amende si elle ne supprime pas suffisamment tôt des contenus à caractère haineux. Et donc, il y a une forme de suppression comme ça, massive de contenu. La question, c'est plutôt celle, pour moi, de l'anonymat et de la capacité d'identifier l'auteur d'un propos haineux et qui enfreint effectivement la loi. Mais c'est encore un autre sujet. Mais sur la question de la période électorale, je pense qu'en l'occurrence, il y a une loi à moderniser. Aujourd'hui, c'est pas possible pour un candidat de publier de manière sponsorisée un contenu à moins de 6 mois d'un scrutin. Et c'est vrai que cette question, elle est assez hypocrite, quoi, parce que n'importe qui d'externe, un candidat peut quand même, d'une certaine manière, le faire, de manière déguisée. Donc, il y a un besoin de moderniser la loi sur l'information et la communication autour des campagnes électorales.
Un mot sur ce que sont ces fake news, parce que en réalité, déjà, on sait souvent, il y a des faits, mais il y a aussi des débats sur les faits très souvent. Donc, on ne sait pas trop au fond pourquoi ce fait est juste et celui-là ne l'est pas. Ensuite, souvent, ceux qui diffusent les fake news sont des élus eux-mêmes, alors qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'autres. On peut avoir un avis différent sur l'information qu'ils transmettent. Troisièmement, on a constaté, notamment aux États-Unis dans le débat autour de l'élection de Donald Trump, que l'essentiel des Facebook, des fake news sur Facebook étaient en réalité des publicités, donc des contenus sponsorisés. Ce qui veut dire que si on veut lutter contre les fake news, c'est pas un problème d'information, c'est d'abord et avant tout un problème de régulation de la publicité. Est-ce que la loi, elle fait pas fausse route un peu sur ces trois sujets?
En France et aux États-Unis, on n'est pas du tout sur le même système. Les moyens dépensés par le système électoral américain pour faire de la publicité sur à peu près tous les supports auxquels elle a le droit, ce qui n'est pas le cas en France, est complètement disproportionné. Surtout quand on ramène au nombre d'électeurs américains. Donc je pense qu'on n'est pas du tout sur le même sujet. L'intérêt de la loi, c'est qu'elle essaye d'intervenir le plus tôt possible sur quelque chose qui va être considéré comme une fake news à un moment donné. Et justement, le moyen d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat sur le fait qu'elle soit juste ou pas juste, c'est d'éviter qu'elle se propage. Parce qu'après, elle s'amplifie, elle se modifie, elle est polyforme.
Oui, mais si c'est un propos de Jean-Luc Mélenchon que moi je vais pouvoir considérer comme une fake news, ou un propos de Marine Le Pen que je vais pouvoir considérer comme une fake news, pourquoi est-ce qu'il faudrait la supprimer si on veut être objectif?
Je pense qu'il y a un devoir particulièrement en politique d'essayer d'avoir un discours de vérité et pas d'être sur...
Mais on sait très bien bien que ce n'est pas le cas. Un homme politique, non, presque par sa nature.
Non, mais il y a vérité.
C'est un intellectuel qui ne pense pas selon une formule célèbre.
Il y a vérité et vision. Ce n'est pas pareil de balancer des informations qui sont totalement erronées, fausses et qui sont factuellement fausses et faire des mensonges, des promesses ou des choses qui peuvent être crues par celui qui les entend.
Eliott Lepers, sur ce sujet.
Moi, depuis un mois, je m'amuse à écouter, quand je peux, les interventions des membres du gouvernement et à noter ce qui est faux. 2, 3, 4 fois par semaine, il y a des informations plus ou moins graves qui sont fausses, tenues par des membres du gouvernement, qui sont factuellement fausses. C'est pas une question d'interprétation.
Mais donc on va les supprimer leur.
Mais voilà,
leur tweet.
C'est ça la question. C'est que c'est pour moi c'est très grave que des personnes qui représentent l'État utilisent de manière plus ou moins consciente, on peut leur donner le bénéfice du doute, des informations qui sont factuellement fausses.
Mais est-ce que c'est pas finalement souvent les fake news des jugements, même s'il y a bien sûr des catégories de fake news
sur l'histoire,
sur l'antisémitisme ou autre sur lequel on sera tous d'accord, malgré tout, est-ce que beaucoup de ce débat, c'est pas une question de jugement?
Quand Julien de Normandie dit qu'il y a 50 SDF en Ile-de-France,
c'est une erreur.
C'est fréquent
c'est
intéressant.
Non, mais c'est malhonnête d'abord parce que Julien de Normandie est quelqu'un extrêmement
sympathique et gentil, etc.
Non, continue, sincère, pas Eliott sympathique Lepers. Et gentil, mais vraiment sincère dans
Eliott
sa démarche.
Mais d'accord, mais c'est une fake news, c'est une information qui est fausse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit supprimer son compte
pour expliquer ce qu'il voulait dire? Donc, enfin, Julien, donnons-lui qui
s'engage. Au-delà de cet exemple, on voit bien le problème. En plus, vous annoncez un nombre de chômeurs, vous savez bien qu'il y a des dizaines d'experts qui sont en désaccord sur ces nombres de chômeurs, parce que selon les comptes, etc., les A, les B, les C, etc. Donc comment est-ce qu'on définit
De façon naturelle, les choses vont se concentrer sur les choses importantes. Je veux dire, si on prend le cas des chômeurs, non pas que ce n'est pas important le nombre de chômeurs, parce que sinon ça va créer une polémique, ce n'est pas ça le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui vont vous dire bah non, ce n'est pas 9,5, c'est 12,5, parce qu'ils ont oublié d'enlever les ceci et cela. Mais la réalité, c'est que la notion de fake news et ce type de loi va s'appliquer sur des choses particulièrement graves, particulièrement dangereuses et sur lesquelles le juge va pouvoir intervenir. Un des sujets importants sur la loi, et qui est quand même c'est ce dont on parle pas assez, c'est aussi la notion d'espace-temps. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre en place des procédures, mais en quelle vitesse tout ça va se mettre en place? Parce que l'important pour intervenir sur une fake news, c'est la rapidité d'exécution. S'il faut lancer une requête auprès du juge qui prend des mois et des mois, je pense c'est un sujet.
Pour terminer, une question par rapport à un article publié cette semaine dans Science, basé d'ailleurs sur une étude du MIT, en particulier du Media Lab, qui révèle que les fausses informations se propage plus vite, beaucoup plus vite que les vrais, et que ces fake news sont essentiellement politiques. Est-ce que légiférer, si on veut être optimiste, peut inverser cette tendance, Eliott Lepers?
Les fake news, elles alimentent une forme de vision de la société et de récit de la société, et elles viennent conforter cette idée-là. Et donc, le problème, il est plutôt pour moi une question de pluralisme de l'information, une question d'éducation, une question de savoir vérifier ses sources. Et c'est plutôt dans la formation des personnes qui reçoivent les informations et qui les traitent et qui les comprennent ou pas que se joue l'enjeu de ce sujet-là. C'est pas une centralisation de cette information-là qui va aller supprimer au cas par cas des informations et parce qu'ils sont déjà dupliqués des dizaines de milliers de fois, qui va permettre d'endiguer cette situation. Il y a toujours eu des rumeurs, il y a toujours eu des fausses informations. Aujourd'hui, elles peuvent se propager extrêmement vite. Mais l'enjeu, c'est qu'on forme les personnes. Il y a des études qui montrent que plus de 50% des utilisateurs adultes de Facebook ne savent pas faire la différence entre un contenu organique ou sponsorisé. L'enjeu, il est là. Il est de faire la différence.
Sponsorisé veut pas dire mensonge.
Enfin, bien sûr.
Sponsorisé veut dire payer. C'est la publicité organique.
C'est acheté par celui qui...
On vous a atteint tout seul. Pour terminer, Gaël Duval, finalement... Tchernobyl, c'était déjà une fake news.
Exactement. Non, mais c'est ça où il faut se rappeler.
Pas Tchernobyl, mais le fait que le nuage.
Le Tchernobyl était une réalité, mais quand on se rappelle la manière dont ça avait été communiqué à l'époque par l'État et l'ensemble des organismes d'État.
À l'époque où Eliott Lepers n'était pas né.
Où à l'époque Internet n'existait pas.
Et ça s'était arrêté à la frontière belge.
On nous avait raconté qu'un nuage radioactif s'était brutalement arrêté. Il n'avait pas son passeport, il n'avait rien. Il s'est arrêté à la frontière belge et il est reparti. Donc, dans l'histoire, les fake news, il y en a plein.
Enfin, et il n'y a pas besoin de Twitter ou de Facebook pour
même
ça.
Le récit historique de France aujourd'hui est composé d'énormes fake news qui font un récit national.
Bon. Eh bien, on en reste là pour ce soir. Merci infiniment à tous les deux.
Merci
à Gaël Duval, fondateur de jechange.fr, proche de la République en marche. Eliott Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. C'est facile à retenir comme ça. On en reste là pour ce soir. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.